Bonjour tout le monde. Que le Seigneur puisse bénir sa parole ce matin. Et je vous invite sans plus tarder à regarder avec moi Matthieu chapitre 1 et verset 18 au verset 25. Matthieu chapitre 1, verset 18 au verset 25. Alors, il y a plusieurs récits au sujet de la naissance de Jésus, et j'ai choisi le premier qui est situé en Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Seigneur éternel, merci de ta parole, veuille bénir ces instants. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs naissances extraordinaires, voire spectaculaires. Par exemple, Isaac est né d'une femme stérile qui avait 100 ans, Sarah, et qui a ri lorsqu'on lui a dit « tu vas avoir un fils ». Ensuite, il y a eu la femme de Manoac. Vous voyez qui c'est ? Dans la Bible, qui était stérile aussi, qui a donné naissance à Samson. Quel homme fort, n'est-ce pas ? Samson, pour un fils d'une femme, n'est-ce pas, qui ne devait jamais enfanter, il déchira un jeune lion. Par la puissance du Saint-Esprit, il tua avec une mâchoire d'âne 1000 Philistins et finalement renversa le temple des païens des Philistins. Pour quelqu'un qui était censé ne jamais naître, le Seigneur a fait qu'il naisse. Et puis, à la naissance de Samuel, on connaît l'histoire d'Anne, n'est-ce pas, qui suppliait Dieu, étant stérile, son époux avait une autre femme, une concubine qui avait des enfants, elle n'en avait pas, elle a supplié Dieu, et Dieu lui a accordé un enfant du nom de Samuel. Et puis, à la naissance aussi de Jean-Baptiste, d'une femme, Élisabeth, qui aussi était stérile, et Dieu lui a accordé un enfant. Et même Jésus a dit à propos de Jean-Baptiste, en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Mais la plus grande des naissances, la plus extraordinaire des naissances, c'est celle de notre Seigneur Jésus, né d'une vierge, cette naissance qui dépasse toutes les autres naissances spectaculaires. En fait, le monde aujourd'hui essaie de répondre à la même question que Jésus a posée. En Matthieu chapitre 22, verset 42, Jésus demande aux pharisiens de qui il est le fils. Que pensez-vous du Christ et de qui est-il le fils? Ils lui répondirent de David. En fait, le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu répond à cette question. Qui est le fils? D'où vient-il? Qui est-il? Alors du verset 1 à 17, j'ai passé outre la lecture parce que ça demanderait aussi un enseignement. Il y a en fait la généalogie humaine de Jésus. D'où vient Jésus? Et il est écrit au verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus est né de la lignée de David par Marie. Et là, il y a toute sa lignée humaine en quelque sorte. Et puis au verset 18 jusqu'au verset 25, il y a la généalogie divine de Jésus-Christ. En fait, quand on lit le texte ici, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Le mot naissance ici a la même terminologie que le mot généalogie qu'on a vu au verset 1. On pourrait traduire ici, voici de quelle manière arriva la généalogie de Jésus-Christ. Il y a d'un côté la généalogie humaine, fils de David par Marie, et d'un autre côté la généalogie divine, fils de Marie, conçu par le Saint-Esprit, donc d'un Père divin. Dans les premiers versets, du verset 1 à 17, on a Jésus qui vient de fils de, fils de, fils de, fils de, n'est-ce pas? Mais quand on arrive à sa divinité, on a Jésus, fils de Dieu. En fait, Jésus est humainement le fils de l'homme et divinement le fils de Dieu. On ne peut pas supprimer cette grande vérité du miracle de la naissance de Jésus. Cette grande vérité, elle est aussi importante non seulement que sa naissance, sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour. On ne peut pas croire en Jésus, le Fils de Dieu, étant Dieu, si on nie sa naissance. Jésus est né d'une vierge et c'est une naissance miraculeuse. Vous savez, du temps des pharisiens, la plupart des Juifs croyaient au Messie. Ils attendaient un Messie qui allait les libérer. Mais à partir du moment où Jésus s'est déclaré Dieu, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Le tuer, le lapider, parce qu'ils n'attendaient pas du tout un Messie qui serait divin, Dieu fait homme. Et pourtant, l'incarnation de Jésus, c'est le centre du message de Dieu et de l'Évangile. Et encore aujourd'hui, beaucoup pensent que Jésus est un grand homme, un grand enseignant, un modèle de grande moralité, un grand prophète, mais pas Dieu. À partir du moment où on dit que Jésus est Dieu, il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui se divisent sur ce sujet. Il y a ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu et ceux qui ne veulent pas croire que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Et vous, ce matin, croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Alors, après avoir établi sa lignée humaine, du verset 1 à 17, Matthieu nous invite à regarder cette lignée divine, entre guillemets. Et il y a cinq grandes vérités qui sortent dans le texte ici. Verset 1, verset 18, excusez, la conception virginale, la réaction de Joseph, il est fiancé à une femme qui est enceinte, il y a de quoi réagir et se poser des questions. Il y a l'apparition de l'ange qui clarifie la situation. Il y a souligné dans le texte l'accomplissement de l'écriture, verset 22 et verset 23. Et puis, il y a l'enfantement de Jésus, c'est ce que nous allons regarder ce matin. Tout d'abord, verset 18, la conception miraculeuse. Jésus est né de façon divine. Comme j'ai déjà dit, le mot grec ici, naissance, pourrait être assimilé aussi au même mot que généalogie que l'on voit dans le premier verset du chapitre 1. Alors, qui était Marie? Marie était une femme qui vraisemblablement vivait à Nazareth, d'une famille relativement pauvre. Élisabeth était sa cousine. Marie était une femme sensible et soumise à la volonté de Dieu. Elle a accepté la parole de l'ange Gabriel lorsqu'il lui a dit qu'elle allait avoir, elle allait être enceinte et concevoir, enfin, faire naître un enfant. Et voilà ce qu'elle dit en Luc chapitre 1. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a l'allégresse en Dieu mon sauveur. C'est une femme qui a accepté le message de Dieu. Mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Dieu a choisi comme mère de son fils une femme tout à fait simple, mais une femme de foi, une femme qui avait confiance en Dieu. Et de même, son père adoptif, Joseph, on peut l'appeler ainsi, le père adoptif, c'était en fait un nom qui pourrait être assimilé à Jacob dans l'hébreu. Il était menuisier de métier et plus important, il était, nous dit la Bible, un homme de bien. On pourrait traduire un homme juste, en fait un croyant de l'Ancien Testament. Joseph avait une foi vivante et Joseph était donc fiancé à Marie. En fait, à cette époque-là, pour comprendre un peu le contexte qu'il est mentionné dans ce texte, les fiançailles étaient quelque chose de très important du temps de Jésus, ici, et c'était un réel engagement, c'était même un contrat que signaient les deux fiancés qui faisaient pratiquement force de contrat et de lien. Et la preuve, lorsqu'il est question que Joseph rompe, Ici, le mot, c'est le mot qu'on pourrait traduire par divorce. En fait, il y avait un contrat qui liait Joseph et Marie en tant que fiancés et ils devaient se marier. Et bien souvent, ce contrat avait lieu et le mariage se faisait à peu près, d'après ce qu'on lit dans l'histoire des historiens, un an plus tard. Autrement dit, il y avait des fiançailles qui duraient un an, mais c'était un engagement. Et bien souvent, à cette époque-là, c'était un engagement entre parents, tout d'abord. Le fiancé, la fiancée ne se voyait pas particulièrement pendant un an. Il n'y avait pas une intimité trop grande qui se créait. C'était lié avec les parents, les engagements de parents. Enfin, le texte ne nous dit pas ce qui s'est passé pour Marie et Joseph, mais ils étaient fiancés et donc ils étaient liés par ce contrat de fiançailles qui faisait force de contrat, en quelque sorte, de mariage. Tout cela pour parler donc de l'étonnement de Joseph, après qu'il est écrit que Marie, sa mère et un tel fiancé à Joseph, se trouvent enceintes par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Le texte précise bien donc que Joseph et Marie ne se connaissaient pas, n'avaient pas de relation sexuelle, pour être clair, et qu'avant cela, avant qu'ils se marient, parce qu'ensuite ils se sont mariés, puis ils ont eu des enfants ensemble d'ailleurs, alors Marie tout simplement est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Peut-être on doit lire le texte, j'ai passé outre la lecture, mais on va revenir à Luc, si vous voulez bien regarder Luc. Luc chapitre 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Quelle annonce, n'est-ce pas, pour une jeune femme humble. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » À l'époque, les jeunes filles se mariaient très jeunes, en fait. J'ai lu dans certains commentaires que les jeunes filles se mariaient entre 12 et 14 ans, et les hommes 18-20 ans. Ceci dit, donc Marie était vierge et donc elle est tombée enceinte. Alors imaginez ce qui arrive à un fiancé qui est fiancé, à sa fiancée qu'il aime et d'apprendre qu'elle est enceinte. La première réaction c'est « ma fiancée m'a trompé, elle a eu une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre ». Et donc pour Joseph, c'était quelque chose de terrible de vivre cela. Mais Joseph donc, puisqu'il aimait Marie, n'a pas voulu provoquer un scandale, n'a pas réagi. Certainement, dans le Seigneur, il a eu une grâce particulière. Il a quand même décidé de rompre secrètement, parce que ça aurait été un scandale pour Marie. Et parce qu'il aimait Marie, il cherchait à la protéger. Et donc, le fait de ne rien dire, de rompre secrètement, ça protégeait Marie, qui était passible, en fait, d'une lapidation. L'adultère, à cette époque-là, même dans le contrat de fiançailles, lorsqu'il y avait tromperie de l'un ou de l'autre, c'était considéré comme un adultère. Et pour le cas de la femme, malheureusement, on va dire, dans un sens, c'était la possibilité de la lapidation. Donc, Joseph essaie de protéger Marie parce qu'il l'aime. Il a des convictions morales et religieuses. Et il sait qu'il ne peut plus se marier avec Marie puisqu'elle est enceinte. Il pense qu'elle a eu des relations sexuelles avec un autre homme. Mais de l'autre côté, il aime Marie. Il ne veut pas la diffamer publiquement. Et ainsi, il décide de rompre secrètement. Et comme je vous ai dit, le mot rompre ici, apolou en grec, ça signifie divorce. Donc c'était vraiment de faire une rupture de contrat de fiançailles. Alors Dieu intervient dans sa souveraineté, c'est quelque chose qu'on apprend ici de merveilleux, c'est qu'en fait Dieu envoie un ange. Maintenant il y a des gens dans la vie, n'est-ce pas, qui voudraient avoir l'apparition d'anges pour simplifier leur vie. Si Dieu pouvait m'apparaître, vous avez jamais pensé ça? Mais il y a quelques anges qui sont apparus, et la plupart du temps d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, ce sont des anges qui sont apparus pour la naissance, à l'occasion de la naissance de Jésus. Donc, quelque chose d'assez extraordinaire, n'est-ce pas, qui est arrivé qu'une seule fois. Donc, soyons prudents, n'est-ce pas, dans la recherche parfois de choses extraordinaires, parce que Dieu peut se manifester d'abord par sa parole et par la puissance de son esprit, sans qu'on soit en recherche d'apparition d'anges ou de songes, on en parlera tout à l'heure. Donc il y a, au verset 20, l'apparition de l'ange. Comme il y pensait, Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Il rassure Joseph, il l'appelle fils de David. En fait, Jésus devait naître aussi, devait avoir une lignée. Dans la descendance de David, il y a une lignée qui s'est gardée pure, en quelque sorte, une lignée qui a été maudite par Dieu. Alors Jésus devait naître de Marie pour avoir la lignée humaine de la descendance de David, mais il devait aussi avoir pour droit du titre de roi, de la royauté, une descendance qui n'avait été pas maudite par Dieu, et c'est ce qui arrive, puisque son père, Joseph, son père adoptif, était descendant aussi de David, de la lignée royale qui n'avait pas été maudite par Dieu. Et ce qui fait que la généalogie qu'on a dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, démontre que Jésus devait à la fois descendre de la lignée de David pour être le fils de l'homme, et de la lignée de David au travail de Joseph pour avoir le titre de roi, évidemment, le titre de roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc en fait, l'ange apparaît à Joseph et l'avertit de ne pas craindre de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il confirme que Marie est bien sa femme, est toujours sa femme, même si elle est enceinte, car il y a un miracle qui s'est opéré, cette femme est devenue enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Il y a question de songe ici, et j'aimerais souligner que le récit de la naissance de Christ, rapporté par Matthieu, comprend 5 rêves qui donnèrent chacun lieu à une révélation, comme pour souligner le caractère surnaturel de cet événement. Et en fait, il y a des gens dans la vie chrétienne, enfin certains qui cherchent des songes, mais nous n'avons pas à chercher des songes particulièrement dans nos vies, si ce n'est une relation intime avec Dieu, au travers de la soumission aux Écritures, de la lecture aux Écritures, et Dieu s'occupe de nous, et pas particulièrement donc au travers de l'apparition d'anges ou de songes, ce sont des événements exceptionnels. Donc en fait, l'ange clarifie clairement à Joseph c'est la situation. Il finit au verset 21, « L'enfant aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom de Jésus vient du grec « Jésus » et de l'hébreu « Yeshua », qui a été traduit plus tard par Joseph. En fait, ça signifie « l'Éternel est salut » ou « l'Éternel sauve ». Alors, on va regarder ne serait-ce que le nom de Jésus. L'ange dit « c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés et tu lui donneras le nom de Jésus ». C'est le nom personnel donné au Fils de Dieu, l'Éternel qui sauve, l'Éternel est salut. C'est aussi un nom qui a été partagé par d'autres personnages, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. J'ai une liste ici, je vous la passe, mais qui montre qu'il est le Fils de l'homme. Ça montre son humiliation, son incarnation. Il a pris un nom d'homme, Jésus. Et puis, c'est un nom, n'est-ce pas, qui signifie sauveur. C'est lui qui sauve. Il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Jésus disparaît, comprenez bien ce que je veux dire, le seul nom de Jésus, seul, disparaît pratiquement dans les épîtres, puisqu'il est souvent mentionné de Christ seul ou de Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Jésus, c'est le fils de l'homme, Jésus-Christ, en quelque sorte le fils de Dieu, parfaitement homme, parfaitement Dieu. En acte 2, versets 36 à 38, Pierre disait que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Jésus, fils de l'homme, et Jésus-Christ, le Christ, le Messie, loin que l'on a dans l'Ancien Testament, le Christos, le Messiah de l'Ancien Testament. Jésus, c'est le sauveur du monde, parce qu'il est Dieu. Je répète, la Bible dit, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Non seulement Jésus est le seul qui peut sauver, donner la vie éternelle, mais c'est le seul qui accorde le pardon des péchés. La Bible dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Être sauvé du péché, c'est d'abord être pardonné du péché. Et seul le sang de Jésus à la croix peut purifier un homme et le rendre plus blanc que la neige. C'est aussi le délivrer de la puissance du péché. En Christ, nous sommes affranchis. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est aussi celui qui nous délivre de ce péché une fois pour toutes, le jour où on meurt, on entre dans la présence de Dieu et on est délivré entièrement de la puissance du péché et du péché, parce que c'est dans notre nature d'être pécheur. Non seulement Jésus-Christ pardonne nos péchés, il nous justifie par son sang, mais il nous sanctifie dans le sens qu'il nous transforme. Et c'est tout cela qui fait qu'on est délivré de la puissance et du péché. De la puissance du péché. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. La Bible dit en Philippiens, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il y a beaucoup de gens qui se disent de Christ ou de Jésus ou avec Jésus, qui ont une certaine admiration pour Jésus. Mais la Bible dit que non seulement il faut croire en Jésus, mais il faut l'accepter dans sa vie pour être en Christ. Il n'y a que ceux qui sont en Christ qui sont réellement sauvés. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, du nom de chrétiens, qui sont de Jésus, avec Jésus, qui sont favorables à Jésus. Mais c'est pas suffisant. Un jour, il faut recevoir le Christ dans sa vie et dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Sauve-moi. Je me souviens, longtemps, j'ai cru que Dieu, n'est-ce pas, voyait les hommes un petit peu de loin, et puis dans la masse, oui, c'est le sauveur des hommes. Mais c'est plus que le sauveur des hommes, il veut être ton sauveur. Est-ce que Jésus-Christ est ton sauveur? Est-ce que tu crois que Jésus est né miraculeusement parce que justement, il est Dieu fait homme? Sa naissance miraculeuse prouve, n'est-ce pas, qu'il est Dieu. De même que sa mort à la croix, de même que sa résurrection, son ascension et son futur retour. Tout cela est l'évangile de Jésus. Est-ce que vraiment nous le croyons de tout notre cœur? La Bible dit au verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ici, Matthieu, donc l'évangéliste, souligne l'écriture et la prophétie d'Ésaïe 7,14, je vous le lis, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Lorsqu'Ésaïe a écrit cela, le prophète Ésaïe, il y avait une double référence. Vous voyez, souvent les prophéties ont une double application. C'était un signe pour le peuple d'Israël, la maison de David qui commençait à s'éloigner de Dieu au travers d'un roi qui s'appelait Akaz, qui était pourtant le fils d'un roi Ozias, qui était un bon roi devant l'Éternel. Et c'était un signe que cette femme allait enfanter un fils et que les deux rois qui étaient en ce moment en train de s'opposer à Israël allaient disparaître. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La femme d'Ésaïe le prophète a eu un enfant et dès l'âge de 3 ans, à l'âge de 3 ans déjà, les grands ennemis d'Israël avaient disparu. Par la puissance et la souveraineté de Dieu, Dieu avait délivré le peuple. Et de même que l'enfant promis de Marie, la jeune fille vierge, est l'enfant de la promesse de la délivrance spirituelle d'Israël, et c'est ce qui était prophétisé en Ésaïe chapitre 7 et verset 14. La Bible est inspirée de Dieu. Est-ce que nous le croyons vraiment? La Bible dit d'elle-même, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de prendre un Nouveau Testament et de mettre en parallèle avec l'Ancien Testament toutes les promesses qui ont attrait avec Jésus-Christ, annoncées dans l'Ancien Testament, qui se sont réalisées dans le Nouveau. Il y en a plus de 300. 300 prophéties de l'Ancien Testament qui ont été réalisées dans le Nouveau Testament et qui sont citées. En fait, Matthieu, j'ai fait toute une liste de versets, mais peut-être je ne vais pas vous les nommer ce matin. Matthieu s'applique constamment à faire référence à l'Ancien Testament. Bon, je vous donne quelques exemples. Par exemple, en Matthieu, un peu plus loin, au chapitre 2, verset 15, il est écrit à propos de Joseph, « Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » C'est une prophétie qui parle d'Israël qui est sorti d'Égypte, qui était esclave, et c'est aussi une prophétie qui concerne son fils qui est sorti hors d'Égypte, puisque ses parents l'avaient amené en Égypte pour le protéger. Double application également. En effet, il y a toute une liste ici de « afin que s'accomplisse », selon ce que les Écritures disaient. Matthieu est soucieux de souligner que ce qui arrive vient vraiment des Écritures, que c'était annoncé par les prophètes. Ce n'est pas un hasard. Toute la vie de Jésus n'est pas un hasard, parce que c'était déjà prophétisé. En fait, j'aimerais quand même mentionner quelques prophéties, si vous me permettez, l'Ancien Testament. Tout le monde sait, je suppose, où est né Jésus, n'est-ce pas? Oui? Question piège, pas Nazareth, c'est Bethléem. Hein? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. En Ésaïe, chapitre 9, verset 5, il est question aussi d'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus n'a pas réellement porté le nom d'Emmanuel durant sa vie, si ce n'est le nom de Jésus. Mais Emmanuel, c'est plutôt son titre, sa fonction, Dieu avec nous. De même que la gloire de Dieu était dans l'Ancien Testament au travers de la Shekinah, la gloire, la puissance de Dieu qui se manifestait et dirigeait le peuple. Dieu avec nous, c'est Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu, qui marche parmi les hommes et qui révèle Dieu son Père. Le lieu de sa naissance, donc Bethléem, et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Jésus est né à Bethléem. Qui peut prophétiser le lieu de sa naissance? Personne, n'est-ce pas? Et pourtant, dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu était prophétisé, le lieu de sa naissance était prophétisé, et Jésus est venu comme le Fils de Dieu. Il n'avait pas pu naître et dire, voilà, je suis né à Bethléem, il n'a pas pu être un faux Messie, il est exactement le Messie que l'Ancien Testament déclarait. En Ésaïe 53 et dans le psaume 22, versets 1 à 22, il est question de ses souffrances. Il est question de sa crucifixion. Ils ont percé mes mains et mes pieds. À une époque où la crucifixion n'existait pas, il était prophétisé que Jésus, dans le psaume créé par David, inspiré par Dieu et écrit par David, que Jésus, le Messie, devait être crucifié, percé, avoir les mains, les pieds percés. Dans le psaume 16, verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Sa résurrection était prophétisée, et au psaume 24, son ascension était prophétisée. Et même lorsqu'on prend le temps d'étudier le livre de Daniel, et où il est question de la crucifixion, loin retranchée, c'est exactement la mort de Jésus 33 ans après sa naissance. Donc, à la limite, il était prophétisé, par ce calcul, la date de sa naissance. Rien n'est laissé au hasard dans la Bible. La venue du Fils de Dieu, croyez-vous que Dieu s'est fait homme, a laissé les choses au hasard? Les choses étaient planifiées, les choses étaient prophétisées. Donc, Joseph, verset 24, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Vraisemblablement, il s'est marié, en attendant que sa femme accouche, ils n'ont pas eu de relation sexuelle, il connut sa femme une fois que l'enfant Jésus était né, mais il ne la connut point, c'est un euphémisme, ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors nous devons nous attarder un petit peu là-dessus et réfléchir. Premièrement, Joseph fit exactement ce que l'ange lui a demandé de faire. Joseph était un homme de foi, mais vous savez, l'obéissance est une grande vertu dans la vie du croyant. Joseph a fait exactement ce que Dieu lui a demandé au travers de l'ange. Est-ce que nous sommes prompts aussi à, quelque part, obéir au Seigneur et lorsqu'il nous parle de nous soumettre immédiatement, comme Abraham, lorsque il a demandé à Abraham, n'est-ce pas, de sacrifier son fils Isaac. Abraham, de suite, s'est levé de bon matin, il était prêt, même si après, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit qu'il a comme recouvert d'une sorte de résurrection. Abraham s'est soumis à Dieu, et bien là, tout simplement, Joseph s'est soumis et a fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Juste une petite réflexion, si vous me permettez, pour terminer. En fait, Marie a eu un enfant. Elle était vierge lorsqu'elle a été conçue, lorsque Jésus a été conçu, elle a eu un enfant. Alors le bon sens dit qu'après avoir eu un enfant, elle n'était plus vierge. C'est logique, non ? C'est censé. Oui ? Une femme qui accouche n'est plus vierge. Donc, quand on parle de la Vierge Marie, il faut bien s'entendre que c'est la Vierge Marie avant qu'elle enfante Jésus. Parce que Jésus a été conçu dans son sein par un miracle. On ne sait pas comment, on ne va pas discuter là-dessus, mais ça c'est la puissance de Dieu. Il le fait comme il veut, n'est-ce pas ? C'est lui qui est souverain. Mais la Vierge Marie, lorsqu'elle a eu son enfant, n'était plus vierge par la suite. En fait, en Luc chapitre 2, versets 6 à 7, je vous lis, il est écrit, « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta, écoutez bien ce qui est écrit en Luc chapitre 2, son fils premier-né. » Quand on dit que quelqu'un accouche d'un fils premier-né, ça veut dire qu'il y a eu d'autres enfants, n'est-ce pas ? Elle la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. En fait, il y a d'autres versets qui affirment que Marie a eu des enfants de Joseph. On ne sait pas quand Joseph est décédé, vraisemblablement avant la crucifixion, puisqu'il n'est pas là alors que Marie est là à la crucifixion. Mais une chose est certaine, c'est que Joseph et Marie ont été un couple heureux. Ils ont eu le privilège d'élever le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus, pendant un certain temps. Et puis ensuite, bien sûr, ils ont eu leurs propres enfants. Il est question dans la Bible des frères et sœurs de Jésus. Jésus est en fait descendant de Joseph, son père adoptif, encore une fois, pour la royauté issue de David, afin qu'il puisse être le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Est-ce qu'il est vraiment votre roi ce matin ? Est-ce qu'il est vraiment celui qui dirige votre vie ? La même puissance qui a permis à Marie d'enfanter et Jésus de naître de façon divine, c'est cette même puissance qui a poussé Jésus à aller à la croix. C'est cette même puissance qui, à la croix, lui a permis de souffrir une telle agonie, non seulement physique, mais spirituelle, d'être séparé d'avec Dieu le Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est cette même puissance qu'il a ressuscité. C'est cette même puissance qu'il a élevée, n'est-ce pas, assise à la droite de Dieu le Père. Et c'est cette même puissance qui va le faire revenir. Si Jésus n'était pas né de façon miraculeuse, tout le reste de l'évangile n'aurait aucune valeur. Un jour, il y a un sceptique qui a demandé à un chrétien ceci, « Si je vous disais que cet enfant, puisqu'il était incrédule au sujet d'une naissance miraculeuse de Jésus, si je vous disais que cet enfant qui vit proche de chez nous est né sans un père biologique, me croiriez-vous ? » Vous savez ce qu'a répondu le croyant ? « Oui, s'il vivait comme Jésus a vécu. » La preuve que la naissance miraculeuse de Jésus est authentique, c'est la vie qui a suivi cette naissance, où Jésus a prouvé qu'il était réellement le Fils de Dieu. Dieu fait encore des miracles. Et il y a une naissance qu'il veut accomplir pour ceux qui encore ne seraient pas donnés au Seigneur. C'est une nouvelle naissance. Il veut changer votre vie. Il veut que vous receviez Jésus dans votre cœur afin de naître de nouveau. Jésus est né miraculeusement, mais Jésus veut vivre aussi miraculeusement dans votre vie. Et pour cela, il faut ouvrir la porte de votre cœur. Il veut entrer dans votre vie. Lui avez-vous ouvert la porte ? Si vous deviez mourir aujourd'hui, je ne vous le souhaite pas évidemment, pour quelle raison est-ce que Dieu vous laisserait-il entrer au ciel ? Eh bien, il n'y a qu'une seule réponse. Ce n'est pas ce que vous aurez accompli, ce n'est pas votre religion, la meilleure soit-elle, c'est juste un nom, Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Christ, le Sauveur. Est-ce qu'il est votre Sauveur ? Prions. Père éternel, merci d'avoir souligné une vérité tellement simple que tu as conçu Jésus dans le sein de Marie et que Jésus est né de façon miraculeuse parce que dans tes plans, il devait être fils de l'homme et fils de Dieu. Merci Père de ce que tes plans sont parfaits et c'est encore une occasion pour nous de nous incliner devant toi pour reconnaître ta souveraineté, ta puissance, pour reconnaître que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Merci d'avoir accepté tout d'abord pour mourir sur une croix, de te faire homme, de t'incarner en Jésus, fils de l'homme, et puis de démontrer que tu es fils de Dieu au travers de toute ta vie, et puis jusqu'à mourir sur la croix. Merci Père d'avoir accepté de te séparer de ton Fils pendant toutes ces années sur la terre. Merci Jésus d'avoir accepté de mourir sur la croix. Et nous voulons fêter, te fêter à toi, pas simplement ces jours de fête en pensant à ta naissance, mais tous les jours de notre vie, parce que c'est de loin le meilleur, te connaître et vivre pour toi. Père éternel, je voudrais te demander que s'il y avait quelqu'un ici qui n'a pas l'assurance du salut, qui n'a pas l'assurance du pardon de ses péchés, que tu veuilles toi-même l'attirer à toi pour lui montrer que oui, tu es mort à la croix pour ses péchés, précisément pour la personne, cette personne, parce que tu es un Dieu d'amour qui cherche à sauver. Cela est bon, agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci Jésus de ce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous t'avons placé dans nos vies en priorité, nous te bénissons. Quelle grâce, quelle joie de te connaître. À toi seul la gloire, au siècle des siècles. Amen.